إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، Nous en sommes au 15e grand péché qui est énoncé par l'imam al-Dhahabi, qui est le péché de l'orgueil, la vantardise, la vanité, l'admiration de soi, l'autosatisfaction et le narcissisme. On voit ici qu'il y a plusieurs défauts qui sont cités, qui se rejoignent tous dans le premier qui est cité, qui est l'orgueil. Car la vantardise n'est qu'un fruit de l'orgueil. De même que la vanité, l'admiration de soi, certains savants voient que c'est la base de l'orgueil. C'est à cause de l'admiration de soi et de l'autosatisfaction, d'avoir une très haute opinion de soi-même, exagérée, jusqu'au point d'être narcissique, est la cause principale d'être orgueilleux. L'orgueil est un grand péché. Et ce grand péché qu'est l'orgueil, il peut se manifester de plusieurs manières. Premièrement, l'orgueil envers Allah, comme celui qui refuse de croire ou d'obéir à Allah par orgueil. Et ce type d'orgueil est de la mécréance majeure. Toute personne qui refuse de croire ou qui refuse d'appliquer ne serait-ce qu'un seul ordre d'Allah par orgueil, il se dit, non mais, et pourquoi je ferais ça? Il a, en faisant cela, mécru en Allah, comme c'était le cas de Iblis. Iblis était un grand adorateur d'Allah. Tellement il était un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, c'est un djinn qui vivait sur terre, qui adorait Allah. Et tellement c'était un grand adorateur qu'ils l'ont pris avec les anges. Il a vécu avec les anges, il adorait Allah avec les anges. Mais tout ça a été pour une sagesse qu'Allah connaît. Allah connaissait son intérieur. Allah connaissait sa réalité. Et comment il allait réagir et comment il allait finir. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam, aba wa stakbara wa kana min al kafirin. Il a refusé, s'est enorgueilli et a fait partie des mécréants. Il a désobéi à un ordre. Avant ça, c'était un grand adorateur. Et ça a fait de lui un mécréant. Mais il a désobéi par orgueil. Voilà le point essentiel que l'on veut citer ici. Celui qui délaisse la soumission à Allah par orgueil a délaissé l'islam. Tu dis à quelqu'un, prie. Il dit, oh, moi je baisserai ma tête par terre pour personne. Est-ce qu'il y a un doute sur sa mécréance à cette personne? Tu dis à quelqu'un, jeûne. Il dit, j'arrêterai de manger pour personne, même pas pour Allah. Est-ce qu'il y a un doute sur la mécréance à cette personne? Parce qu'il a fait ça par orgueil. Donc l'orgueil a des degrés. L'orgueil envers Allah, en refusant de lui obéir par orgueil, en refusant de se soumettre à lui par orgueil et de la mécréance majeure. Puis, parfois, certains délaissent certains ordres par orgueil vis-à-vis des gens, et non pas vis-à-vis d'Allah ou de son messager, par exemple. Parce qu'il considère qu'il a une place au milieu des gens. Ceci ne le fait pas atteindre la mécréance majeure. Comme l'histoire de cet homme au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui mangeait avec sa main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mange avec la main droite. Il lui a dit, je ne peux pas. Il lui a dit, tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus. Et après ce jour-là, il ne pouvait plus lever la main à la bouche. Tu ne pourras plus. Il n'y avait que l'orgueil qui l'avait empêché d'obéir. La vantardise, c'est la manifestation de cet orgueil par la parole. en se vantant de sa personne, de ses actes, de sa science, de sa connaissance, de ses œuvres, de sa beauté, de sa force, de son argent, de quoi que ce soit, par lesquels la personne pourrait s'enorgueillir sur un autre. D'ailleurs, on va voir à la fin un texte que l'on va citer d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, où il dit « Sache que nul ne s'enorgueillit sans se considérer lui-même comme grand, et nul ne se considère comme grand sans croire ou prétendre posséder une qualité relevant de la perfection. Or, l'ensemble de cela revient soit à une perfection religieuse, soit à une perfection mondaine. La perfection religieuse comme la science, les œuvres, tandis que la perfection mondaine comme la noblesse, l'ascendance, la beauté, la force, la richesse et le grand nombre de partisans. Voilà les causes pour lesquelles les personnes s'enorgueillissent. Ou bien pour din, c'est-à-dire qu'il pense qu'il a une supériorité religieuse sur toi, ou bien pour dunya, il pense qu'il a une supériorité mondaine sur toi. Ou les deux ensemble. Parfois, il y en a, il réunit tous ses malheurs ensemble. Il se croit le plus fort, le plus beau, le plus riche et le plus pieux. Donc lui, c'est orgueil sur orgueil, une montagne d'orgueil. Bien sûr, il y a d'autres causes, mais il a cité ici les causes principales, c'est-à-dire où la personne s'enorgueille sur un autre à cause d'une vertu prétendue, supplémentaire, de religieuse, donc dans la science ou dans les œuvres, ou dans les deux ensemble, ou bien d'une vertu prétendue, une prétention vertu dans les choses de dunya, peu importe quelle est cette chose de dunya. Dans le sport, dans la force, dans la beauté, dans parce qu'il t'a devancé dans le contrôle de mathématiques, dans je ne sais quoi. Peu importe en fait cette chose de dunya. Donc, l'orgueil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini. C'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens, de rabaisser les gens. Rejeter la vérité, le pire c'est quand cette vérité vient d'Allah et de son messager, c'est le pire, la pire catégorie d'orgueil, ou toute autre vérité, ou mépriser les gens, ou bien les deux ensemble. Alors que la vantardise, c'est l'expression de cet orgueil par la langue, quand la personne se vante, dit « je connais plus que toi, je suis plus fort que toi, je suis plus beau que toi, je suis plus riche que toi ». Je suis plus intelligent que toi, ainsi de suite. Déclinez-les de toutes les manières que vous voulez. Plus que toi. Vous mettez n'importe quel mot avant et après, entre les deux, c'est plus que toi. Voilà. C'est ça la vantardise. Ou plus que tout le monde. Il y en a, ça va plus loin. C'est pas juste plus que toi. Plus que tout le monde. La vanité, al-khuyala, on l'a traduit par la vanité, ce sont des actes qui traduisent l'orgueil. Par exemple, il s'habille d'une manière où il fait certains gestes ou certaines choses pour se montrer supérieur aux autres. D'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui traîne son vêtement par orgueil, par vanité. Par exemple, Allah ne lui parlera pas le jour du jugement dernier. Il ne le purifiera pas et il aura un châtiment douloureux. Donc là, c'est des actes, non des paroles. Donc l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Cet orgueil, il peut se traduire par la vantardise avec la langue, en se vantant d'une perfection prétendue, ou par la vanité, par des actes, une façon de s'habiller, une façon de se comporter, ou toute autre chose apparente, sans parler, avec laquelle on veut s'élever sur les autres. Et c'est de l'orgueil aussi. Et vient la cause de tout cela qui est l'admiration de soi, l'autosatisfaction, la très haute estime de sa personne, exagérée, une estime exagérée de sa personne. Parfois, c'est du mensonge même. Il s'attribue des qualités qu'il n'a même pas. Il dit « je suis honnête » alors que c'est le pire des menteurs. Et il se convainc lui-même qu'il est honnête. Tellement il ment qu'il se convainc lui-même qu'il est honnête. Quand il dort la nuit, il dit « je suis le plus honnête des hommes ». Il y a des menteurs invétérés, ils arrivent à se mentir à eux-mêmes. Tellement ils mentent. Il arrive lui-même à se coucher le soir et à être tranquille, se dire « qu'est-ce que je suis honnête ». Donc voilà le titre de ce péché que l'imam al-Dhahabi a cité ici. On pourrait en faire un livre à lui tout seul. Mais on va se contenter de citer les textes que l'imam a cités dans son livre, en donner une explication succincte, Inch'Allah. Parmi les moyens de combattre l'orgueil, il y a le fait que la personne se rappelle constamment ses manquements. Il se rappelle ses manquements religieux, ses manquements dans la piété, ses manquements dans la science, ses manquements dans les bonnes œuvres, ses manquements dans le comportement, ses manquements physiques, psychologiques, intellectuels, tous ses manquements. Alors quand Shaitan vient essayer de le gonfler, tout de suite, il se souvient de tous ses manquements. Il se les rappelle. Et il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ce qui aide à éviter l'orgueil, c'est de s'entraîner constamment à la modestie et à l'humilité. De s'asseoir avec les gens pauvres, de manger avec eux, de se mélanger aux gens simples et de ne pas se sentir trop haut pour s'asseoir avec ce type de personne. Enfin, ce type, pour eux, ce type. C'est eux qui disent ça, je ne fais que répéter comment une personne orgueilleuse pense. De même que la personne doit toujours surveiller son âme bestiale. Dès qu'il sent qu'elle se réjouit d'être mise en avant, d'être le sujet de conversation des autres, ou elle se réjouit d'une parole ou d'un acte qu'il a fait, il est pris par le rourour, il est étonné par lui-même. « Oh, Allahu Akbar, qu'est-ce que je suis fort !» par exemple. Et il oublie que tous ses bienfaits proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça le problème de celui qui a une trop haute estime de soi, qui s'admire jusqu'à devenir narcissique, il en oublie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne dit pas que tous ces bienfaits proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit cette science, que ce soit cette santé, que ce soit les enfants, que ce soit toute chose qu'il possède ou qu'il croit posséder. Puis l'imam a cité en premier la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit wa qala Musa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawm al-hisab. Musa dit je recherche protection auprès de mon Seigneur et du vôtre contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour du jugement dernier. Donc là on voit que cet orgueil mène à la mécréance, à rejeter le jour du jugement dernier. Puis il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, innahu la yuhibbul mustakbirin. Certes, il n'aime pas les orgueilleux. Donc l'orgueilleux est détesté par Allah. Et l'orgueil est détesté religieusement et il est détesté naturellement. Tous les gens croyants ou mécréants détestent les orgueilleux. C'est inné. Puis il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Ceux qui disputent au sujet des signes d'Allah sans preuve qu'il leur ait été donné n'ont dans leur poitrine que de l'orgueil qu'ils n'atteindront jamais. Cherche donc refuge auprès d'Allah. Puis il a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam Muslim, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Donc là, la personne pourrait se dire, est-ce que aussi ça veut dire que la personne qui est orgueilleuse est un mécréant? Non. Ici, c'est une mise en garde. Nous avons répété cette règle maintes et maintes fois. Vous vous souvenez, dans l'introduction, nous avons cité ce hadith. C'est-à-dire, il n'entrera pas au paradis avec les premiers qui y entrent. Avec les premiers qui y entrent. Ou bien, si on s'en tenait à son seul défaut, sans la miséricorde d'Allah et sans le bienfait de la foi, il ne mériterait pas le paradis. Car ceci n'est pas une caractéristique des croyants, dans ce sens-là. Non pas dans le sens qu'il n'entrera jamais au paradis. Car tout musulman qui est mort sur le tawhid, même s'il a été orgueilleux envers les gens, ou il a fait ce grand péché, un jour ou l'autre ira au paradis. Soit directement, car Allah tabaraka wa ta'ala lui aura pardonné ce péché par sa miséricorde, par la cause de ses nombreuses autres bonnes actions, par exemple. Soit, il passera par l'enfer qu'il aura mérité, et il se fera châtier en enfer le temps qu'Allah aura voulu. Puis, quand il sera purifié, il entrera au paradis. Donc, quand il entrera au paradis, à ce moment-là, il n'aura plus d'orgueil. Il se sera tellement fait purifier que là, il méritera d'entrer au paradis, pur. Car ce jour-là, le jour du jugement dernier, ni les biens, ni les enfants ne seront d'une utilité quelconque auprès d'Allah, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur pur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le cœur pur, c'est le cœur qui est purifié de l'associatrie, qui s'est soumis à l'ordre d'Allah, qui a accepté le décret et la destinée d'Allah, et qui a été saint et pur envers les alliés et les bien-aimés d'Allah, et qui a détesté les ennemis d'Allah. Le cœur pur, c'est celui dans lequel il n'y a pas de shirk, d'associatrie ou de polythéisme, où il n'y a pas d'innovation, où il n'y a pas de tout ce qui le coupe d'Allah et l'éloigne d'Allah. C'est un cœur qui se rappelle Allah, qui n'est pas insouciant, qui n'est pas insouciant, qui est éveillé. Voilà un cœur pur. Donc, n'entrera au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'une petite fourmi, parce que misqal ou dharra, dharra c'est pas un atome. À l'époque, il n'existait pas cette terminologie d'atome. Al-Dharra, c'est une fourmi minuscule, à peine visible. Elle s'appelle Dharr. À peine visible. Donc le poids d'une minuscule fourmi d'orgueil. Puis il a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors qu'un homme marchait avec arrogance dans ses deux vêtements, Allah l'enfouit dans la terre. Il y sera englouti jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire, il ne cessera d'y être tourné et englouti dans la terre. Ça, c'est son châtiment jusqu'au jour de la résurrection. Parce qu'il marchait plein de suffisance et d'arrogance sur terre. De vanité. Tout à l'heure, on a dit, une des manifestations de l'orgueil, c'est cette vanité, cette arrogance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se vêtit d'un vêtement d'apparat dans ce bas monde sera vêti d'un vêtement d'avilissement dans l'au-delà. Un vêtement d'apparat, c'est un vêtement par lequel la personne veut se différencier des autres musulmans. Il veut qu'on le montre du doigt. Ah, regarde son vêtement. Ah, t'as vu ses chaussures? Ah, t'as vu... Voilà. Et même quand il l'achète ou il le fait coudre, ah, avec ça, tout le monde va me regarder. C'est un vêtement d'apparat. C'est ça, un vêtement d'apparat. Celui avec lequel on veut attirer le regard des gens. Subhanallah. C'est là qu'on voit la... comment l'islam appelle à la modestie et à la simplicité et à l'humilité. Et tous les prêches aujourd'hui sur partout, sur toutes les plateformes existantes, que ce soit de la télévision, aux réseaux sociaux, aux journaux, aux livres, à ce que vous voulez, ils appellent à tout le contraire. Ils appellent à tout le contraire. Illa man rahim Allah, sauf très peu. Ce à qui Allah a permis d'appeler les gens sur à la bonne voie. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Tirmidhi, qui est un hadith acceptable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les tyrans et les orgueilleux seront rassemblés au jour de la résurrection sous la forme de minuscules fourmis que les gens piétineront. Sur terre, ils se sont crus grands. Le jour du jugement dernier, Allah va les ressusciter minuscules. Et ils seront piétinés. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Leur rétribution est appropriée et conforme aux mauvais actes qu'ils faisaient. Ils ont voulu s'agrandir, Allah les a rabaissés. Certains des pieux prédécesseurs ont dit, ça c'est l'imam Dhahabi qui rapporte ça, le premier péché par lequel Allah fut désobéi est l'orgueil. Allah a dit: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, tous sauf Iblis. Il refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants. Bien sûr, cette prosternation était une prosternation de salut qui était autorisée dans les législations précédentes. Puis, comme c'est arrivé aussi à Youssouf, alayhi salam, ses frères et ses parents qui se sont prosternés par salut et respect, non pas par adoration. Puis, dans la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette autorisation a été abrogée pour fermer toutes les portes qui mènent au shirk. Même si l'intention n'est pas l'adoration, même si c'est pour un salut ou pour un respect ou autre. C'est illicite en islam de s'incliner ou de se prosterner devant qui que ce soit. Devant qui que ce soit. Bien sûr, sauf devant Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Mais c'est-à-dire devant aucune créature, le musulman n'a le droit ni de s'incliner, ni de se prosterner devant aucune créature que ce soit. Puis le cheikh a dit: ainsi, Celui qui s'enorgueillit face à la vérité comme Iblis l'a fait, sa foi ne lui est d'aucune utilité. Donc ça c'est la parole de l'imam al-Dhahabi. Donc ça c'est l'orgueil vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son ordre. Puis l'imam Ahmed a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'orgueil c'est le rejet de la vérité et le mépris des gens ». Et dans la version de l'imam Muslim, qui est la suite du premier hadith que l'on a lu, premier hadith où il a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'une minuscule fourmi d'orgueil ». Et les compagnons ont dit « Ô messager d'Allah, nous aimons tous les belles chaussures, les beaux vêtements ». Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est beau, il aime ce qui est beau ». C'est-à-dire ceci n'est pas de l'orgueil, aimer les belles chaussures et les beaux vêtements. Mais l'orgueil est de rejeter la vérité et mépriser les gens. Et mépriser les gens. Puis après cela, il a cité la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalim fakhur. Allah n'aime aucun arrogant plein de fierté. Puis il a cité une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un hadith Qudsi, rapporté par l'imam Muslim, où Allah a dit « La grandeur est mon manteau et la majesté mon vêtement. Quiconque me les dispute, je le jetterai dans le feu. » Me le dispute signifie « veut rivaliser avec moi et me contester dans ses caractéristiques. » C'est-à-dire la grandeur et la majesté sont des caractéristiques propres à Allah. Et personne n'a le droit de les disputer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le droit d'avoir des rois sur terre. Quand on parle de la majesté, c'est-à-dire la caractéristique, l'attribut de la majesté, de la grandeur. Non pas d'être roi d'un pays ou d'une contrée. On ne parle pas de ça, de diriger. Mais la majesté en tant qu'attribut. En tant que caractéristique. Et il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dont Allah a demandé à l'être humain de se comporter avec, comme la miséricorde. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama. Les miséricordieux, Allah leur fait miséricorde. Le miséricordieux leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Mais il y a d'autres caractéristiques qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'orgueil, la grandeur et la majesté. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'orgueil n'est pas un défaut. C'est une qualité, car Allah est conscient de sa grandeur. Il sait qu'il est le plus grand et le plus puissant. C'est dans ce sens-là. Il n'y a pas plus grand et plus puissant qu'Allah. Et ça, c'est une réalité absolue. Et Allah le sait. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une qualité de perfection pour Allah. Et c'est un manquement et un défaut pour les créatures. Car les créatures sont manquantes. Comment pourrait-elle se permettre d'être orgueilleuse? Alors qu'Allah est parfait et absolu. Dans l'absolu. Donc il n'y a pas plus grand et plus parfait qu'Allah. Donc c'est une réalité. Puis l'imam a cité une parole de Bukhari et Muslim. Une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par le Bukhari et Muslim. Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le paradis et l'enfer se sont disputés devant leur Seigneur. » Le paradis a dit « Seigneur, pourquoi il y a en moi que les faibles et les gens méprisés ?» Et l'enfer dit « Moi, j'ai hérité et j'ai été réservé aux tyrans et aux orgueilleux. » Puis il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala,
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
Cette demeure de l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne chercheront ni l'élévation sur terre, ni la corruption, et la bonne fin est réservée aux gens pieux. On comprend de ce verset que les gens sur terre sont de quatre catégories. Trois d'entre elles sont perdues, et la demeure de l'au-delà n'a pas été réservée pour eux. Et une seule catégorie d'entre ces gens fait partie des gens pour lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a réservé la demeure de l'au-delà, c'est-à-dire le paradis. La première catégorie, ce sont ceux qui cherchent à s'élever sur terre et ils cherchent à y corrompre, comme Pharaon, par exemple. La deuxième catégorie sont ceux qui cherchent à corrompre sur terre, mais ils ne cherchent pas à s'y élever, c'est-à-dire ils ne cherchent pas à être orgueilleux par-dessus les gens. Mais ils corrompent sur terre, comme les voleurs, comme les gens qui coupent les routes, les bandits de grand chemin. La troisième catégorie sont ceux qui cherchent à s'élever sur terre, mais ils ne cherchent pas à corrompre. Ce sont les savants qui cherchent par leur science le dunya, ce bas monde. C'est-à-dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend une de ces sciences par lesquelles on cherche le visage d'Allah, ou l'au-delà, ne voulant par cela que les biens éphémères de ce bas monde, ne sentira pas l'odeur du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apprend cette science, pour se vanter auprès des savants, pour se vanter auprès des ignorants, et pour polémiquer avec les savants, et pour détourner le regard des gens vers lui, qu'il prépare sa place en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les trois premiers par lesquels l'enfer sera attisé sont un combattant, un donateur et un savant. Le combattant va dire « J'ai donné ma vie pour toi, oh Allah ». Il va dire « Tu as menti, tu l'as fait pour que les gens disent que tu es courageux ». Le donateur va dire « J'ai donné tout mon argent sur ton sentier », va dire « Tu as menti ». Tu l'as fait pour que les gens disent « Tu es généreux ». Et le savant va dire « J'ai lu, j'ai appris le Coran, je l'ai enseigné, ou j'ai appris et enseigné cette science pour toi ». Il va dire « Tu es un menteur, tu l'as fait pour que les gens disent « Tu es un savant » et ils l'ont dit. Et il sera ordonné qu'ils soient traînés leur face la première en enfer. Ce seront les premiers par lesquels l'enfer sera attisé. Ils seront les premiers par lesquels l'enfer sera attisé. Sallallahu alayhi wa sallam. Et la quatrième catégorie qui sont les gens pieux, qui ne veulent ni s'élever sur cette terre, ni corrompre sur terre, alors ce sont eux qu'Allah Ta'ala a dit « وَلَعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » Ce sont eux pour qui Allah a réservé cette demeure de l'au-delà, qu'Allah nous inscrive parmi ces gens-là. Puis il a cité la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala « وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا » إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ne détourne pas ta joue des gens par arrogance et ne marche pas sur terre avec insolence. Allah n'aime aucun arrogant plein de vanité. Détourner le visage avec dédain et marcher sur terre avec insolence et fierté ostentatoire. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Tu ne pourras pas fendre la terre en marchant et tu n'atteindras pas la hauteur des montagnes. » Donc ça ne sert à rien de marcher comme un paon. Marcher comme un paon. Fier comme un paon. Puis, il a rapporté une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'imam Ahmad, où Salama ibn al-Akwa a rapporté « Un homme mangeait avec sa main gauche devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Mange avec ta droite ». L'homme répondit « Je ne peux pas, seule l'arrogance l'en empêchait ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Tu ne pourras plus ». et il ne put plus jamais porter sa main à sa bouche. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous informe des gens de l'enfer ? Ce sont tout individus rudes, butors, arrogants, durs et orgueilleux. » Rudes, butors, arrogants, durs et orgueilleux. Et quand il a demandé, voulez-vous que je vous informe des gens du paradis? Il a dit, c'est toute personne douce, humble, modeste. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, soyez humble et modeste jusqu'à ce que plus personne ne fasse d'injustice à une autre et que plus personne ne se vante de sa supériorité par rapport à un autre. Puis l'imam al-Dhahabi a dit, il est authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les trois premiers à entrer en enfer seront un gouvernant tyrannique, un riche qui ne s'acquitte pas de la zakat et un pauvre orgueilleux. Nous avons déjà dit que ce hadith était très faible. Puis l'imam al-Dhahabi a fini ce chapitre en disant, la pire forme d'orgueil est celle de celui qui s'enorgueillit devant les serviteurs d'Allah par sa science et se grandit dans son âme par sa prétendue supériorité. Celui-là, sa science ne lui profite en rien. Celui qui recherche la science pour l'au-delà, sa science l'humilie, son cœur devient humble et son âme se soumet. Il se surveille constamment, se reprend et se réforme. S'il la néglige, elle s'emballe et le détruit. Quant à celui qui recherche la science pour la gloire, le pouvoir et la supériorité, et qui regarde les musulmans avec mépris, les traite comme des ignorants et les rabaisse, celui-là est dans la pire forme d'orgueil. Or, nul n'entrera au paradis s'il a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil, et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Pour aller dans les mêmes sens, dans le même sens que l'imam al-Dhahabi a rapporté, je vous ai choisi un passage de Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qu'il a rapporté dans Sayyid al-Khatir. Sayyid al-Khatir, on pourrait le traduire par la chasse aux pensées. C'est-à-dire, il avait des pensées comme ça, il les a chassées, il les a regroupées en thèmes. Ou il les a notées, il les a même pas classifiées. Par exemple, il avait des pensées, il les a notées. Des pensées sur l'orgueil, des pensées sur des choses liées à l'islam, sur un hadith, sur un comportement, etc. Donc, dans Sayyid al-Khatir, il a dit, donc on avait lu le début tout à l'heure, mais je vais le reprendre, « Sache que nul ne s'enorgueillit sans se considérer lui-même comme grand. Et nul ne se considère comme grand sans croire posséder une qualité relevant de la perfection. Or, l'ensemble de cela revient soit à une perfection religieuse, soit à une perfection mondaine. La perfection religieuse est la science et l'œuvre, tandis que la perfection mondaine est la noblesse de l'ascendance, la beauté, la force, la richesse et le grand nombre de partisans. Cela fait donc sept causes par lesquelles les gens s'enorgueillent. La première des causes, la science. Il dit, comme l'orgueil se glisse rapidement chez certains savants, il ne tarde pas à ressentir en lui-même la perfection de la science, à se considérer comme grand, à mépriser les gens, à les juger ignorants et à les utiliser lorsqu'il les fréquente. Il peut même se voir auprès d'Allah, le Très-Haut, comme étant plus élevé et meilleur qu'eux. Il craint alors pour eux plus qu'il ne craint pour sa propre personne. Et il espère pour lui-même plus qu'il n'espère pour eux. La cause de son orgueil par la science repose sur deux choses. La première, c'est qu'il s'adonne à ce qui est appelé science, alors que ce
n'en est pas réellement. Car la véritable science est celle par laquelle le serviteur connaît son Seigneur, connaît sa propre personne, ainsi que la gravité de sa situation lors de la rencontre avec Allah et le fait d'en être voilé. Or, cette science engendre la crainte révérentielle et l'humilité, non l'orgueil. Allah Ta'ala a dit, dans le sens, ce sont seulement les savants parmi ses serviteurs qui craignent Allah. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى. La seconde, donc la première, c'est qu'il s'adonne à quelque chose qui est appelé science, mais ce n'est pas la vraie science utile. La deuxième, qu'il se plonge dans la science alors qu'il est de nature corrompue, d'âme vile et de mauvais caractère. Il ne s'est pas d'abord appliqué à discipliner son âme, ni à purifier son cœur par les différents types de luttes spirituelles. Il est donc resté mauvais dans son fort intérieur et dans son essence. Lorsqu'il s'engage alors dans la science, celle-ci trouve dans son cœur une demeure corrompue. Son fruit ne devient pas sain et ses effets bénéfiques ne se manifestent pas. À ce sujet, Wahb a donné une parabole en disant « La science est comme une pluie qui descend du ciel, douce et pure. Les arbres l'absorbent par leurs racines et la transforment selon leur nature. L'arbre amer devient encore plus amer et le doux, plus doux. Il en est de même de la science. Les hommes la mémorisent puis la transforment selon leurs ambitions et leurs passions. Elle augmente l'orgueilleux dans son orgueil et l'humble dans son humilité. » Puis Ibn al-Jawzi a dit, « Et cela parce que celui dont l'ambition et l'orgueil est en réalité un ignorant, lorsqu'il acquiert la science, il y trouve de quoi s'enorgueillir et s'enfonce davantage dans son orgueil. Quant à celui qui, avec sa science, est habité par la crainte, plus sa science augmente, plus il comprend que la preuve d'Allah contre lui s'est renforcée, il n'en devient alors que plus craintif. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Qu'Allah nous inscrive parmi ces gens-là. Voilà donc la gravité de l'orgueil et ses méfaits. Et voilà donc l'importance, si vous vous souvenez bien, on avait fait 3 longs cours sur la politesse avant l'apprentissage de la science. Car la personne qui ne passe pas par ce chemin finira comme il a été décrit. Qu'Allah nous en préserve et nous guide au droit chemin, purifie nos poitrines de l'orgueil, de la vantardise, de la vanité, du narcissisme, de l'autosatisfaction, de l'admiration de soi et de tous ces défauts qui nous voilent et nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين